le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Alors que nous sommes au mois d'août, certains d'entre vous sont encore en vacances, d'autres sont déjà de retour au travail. C'est donc le moment pour nous de revenir sur quelques-uns de nos coups de cœur, ceux qui nous ont particulièrement touchés au cours de l'année écoulée. Des coups de cœur qui, comme vous le savez, ponctuent tout au long de l'année nos échanges hebdomadaires, des idées de lecture, de films, de lieux à découvrir pour cet été ou pour la rentrée.
Pour le premier épisode de ces rattrapages estivaux, nous rendrons hommage à Milan Kundera, disparu le mois dernier, à travers une chronique que lui avait consacrée Jérémy. Mais avant cela, nous évoquerons trois œuvres de fiction particulièrement brillantes. La série The Offer, consacrée à la production du Parrain. Le film Le Souper, qui raconte une passionnante discussion entre Fouché et Talleyrand. Et le roman Nous autres, d'Evgeny Zamiatin, remarquable roman d'anticipation politique qui a notamment inspiré 1984. Et commençons donc par The Offer, que nous évoquions il y a quelques mois, au moment de sa sortie sur Paramount+.
Mais je crois, mon cher Romain, toi, que tu voulais aujourd'hui revenir dans ton coup de cœur sur une série qui t'a particulièrement plu.
Oui, alors c'est la série The Offer, et c'est une série, chose rare, que j'ai bingée en quelques jours sur une nouvelle plateforme Paramount+. On a parlé du Parrain, on nous y sommes. C'est une série qui raconte de manière vraiment légère et tragicomique le tournage rocambolesque et chaotique du Parrain. Donc il y a quelques mois, dans un épisode précédent, à l'occasion de la mort de James Caan, nous avions évoqué notre amour pour la trilogie du Parrain et puis pour tout ce que ce film peut représenter, tout ce qu'il peut raconter de l'Amérique, de la famille, de l'immigration, du pouvoir. Et puis nous avions mentionné le tournage extrêmement compliqué du Parrain, entre remise en cause par les propriétaires de la Paramount, remise en cause des choix artistiques de Francis Ford Coppola, des problèmes de casting, des problèmes budgétaires, une relation compliquée avec la pègre. Eh bien, The Offer, cette série, raconte en 10 épisodes absolument tout cela, avec comme figure centrale, outre le producteur du Parrain, Al Ruddy, qui s'est mis en quatre et même bien plus pour permettre à ce film de voir finalement le jour, de défendre les partis pris de Coppola, puis pour gérer les relations avec la mafia d'une part et les bureaucrates des studios de production d'autre part. Donc, outre le producteur Al Ruddy, tout le casting du Parrain. Et ce point de vue est particulièrement intéressant et personnel, car cette série, The Offer, est en partie produite par Al Ruddy lui-même, qui est toujours vivant. Il a plus de 90 ans, et il a eu, après le Parrain, une longue carrière de producteur. Il a notamment de nouveau remporté un Oscar pour Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Donc cette série, au-delà de nous faire replonger toujours avec un grand plaisir dans l'univers du Parrain, elle a un ton très léger, mais elle nous fait basculer dans toute une époque, en fait, celle des années 70. On y croise toute une ribambelle de personnages hauts en couleur, soit directement liés au Parrain, comme bien sûr Mario Puzo, Coppola, Brando, Pacino, mais certaines qui ne sont pas liées, comme ton ami Kissinger, ou bien la célèbre actrice et égérie Ali McGraw. Donc c'est un magnifique hommage à cette époque, mais c'est un magnifique hommage au grand cinéma et au métier de producteur. C'est aussi de manière un peu plus, peut-être, politique, une vive exhortation pour les studios hollywoodiens à la prise de risque, à s'affranchir des schémas marketing préconçus. Et donc, c'est en creux une critique de beaucoup de choses qu'est devenue Hollywood, c'est-à-dire une industrie cinématographique totalement financiarisée, et donc averse au risque, et donc addict aux franchises, préquels, séquelles, qui permettent d'assurer des revenus plus ou moins prévus, au détriment souvent, malheureusement, de toute créativité. Une industrie qui est un peu coincé, pris en sandwich, sous la coupe d'une part des comptables et d'autre part des esprits bien-pensants, moralisateurs, qui veulent injecter leur moraline partout. Bref, de tous les côtés, des ennemis de la liberté créatrice et des ennemis des risques heureux que la liberté peut représenter. Donc voilà, Hollywood, bien sûr, ce n'est pas que ça. Et la créativité aujourd'hui se situe en grande partie largement en dehors d'Hollywood, mais The Offer a le mérite de rappeler ce qui fait la différence entre une œuvre d'art, particulièrement imposante, en l'occurrence avec le Parrain, et puis ce qui relève du pur business, l'un, bien sûr, n'étant pas totalement l'ennemi de l'autre. Donc malgré quelques petites longueurs, surtout dans la première demi-heure qu'il faut impérativement surmonter. On passe un super moment avec cette série, et puis c'était un visionnage indispensable pour tous les fans du Parrain comme toi.
Merci beaucoup mon cher Romain, je sais que c'est une recommandation qui plaira aussi à nombre de nos auditeurs qui partagent notre passion et notre goût pour le Parrain.
Toi Jérémy, toujours en termes d'histoire, tu voulais nous parler d'une pièce de théâtre adaptée au cinéma.
Oui, tout à fait. Alors, dans un style très différent, mais c'est un texte, puis ensuite un film que j'ai profondément aimé, qui est intitulé Le Souper, qui est une pièce de théâtre d'abord écrite par Jean-Claude Briseville en 1989. Et puisqu'on a évoqué Talleyrand durant nos échanges avec Patrice Guénifé, là, en l'occurrence, Talleyrand est une des figures principales, puisque c'est un huis clos et un dialogue aussi pétillant que savoureux entre Talleyrand et Fouché. Donc, deux figures incroyablement romanesques, deux grands personnages, et les dialogues sont absolument extraordinaires. Évidemment, on retrouve beaucoup de bons mots de Talleyrand, des saillies extraordinaires. Et puis, cette pièce de théâtre, qui avait d'abord été créée au Théâtre Montparnasse en 1989, est ensuite, en 1992, devenue un film réalisé par Édouard Molinari, qui a repris les deux acteurs qui constituaient la distribution initiale, Claude Rich, Talleyrand, et Claude Brasseur, en Fouché. Deux acteurs magnifique. Claude Rich, notamment, est un Talleyrand absolument extraordinaire. Il avait d'ailleurs reçu le César du meilleur acteur pour sa performance. Et alors, pour replacer nos lecteurs dans le contexte, la scène du souper se déroule dans une soirée à Paris à minuit, le 6 juillet 1815. Il fait une chaleur étouffante à Paris, et puis étouffante dans tous les sens du terme, puisque Napoléon a abdiqué, Paris est occupé par les troupes coalisées, et on se pose alors la question du régime à donner à la France. Est-ce qu'on va retourner à une république ? Est-ce qu'on va retourner, ça va être la restauration, le retour de Louis XVIII sur le trône ? Talleyrand et Fouché ont des visions différentes et vont lutter toute la soirée pour imposer leur approche. Et je terminerai juste par cette citation des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand qui conclut le souper, absolument magnifique. Et je cite Chateaubriand, « Je me rendis chez Sa Majesté, introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvais personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand marchant soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Si vous voulez donc retrouver à la fois le vice et le crime, lisez ce superbe texte, Le souper de Jean-Claude Briseville. Ton coup de cœur nous amène alors plutôt du côté de la littérature et d'un livre qui a d'ailleurs un lien lui-même avec un de nos précédents coups de cœur.
Alors oui, parce qu'il y a quelques mois, dans un de nos tout premiers épisodes, tu avais recommandé, dès sa publication, le livre de Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin. Alors, j'avais suivi ta recommandation, d'ailleurs, comme beaucoup de Français, on voit l'influence de notre podcast, puisque ce livre est de manière assez réjouissante en tête des ventes depuis de très nombreuses semaines, et je l'avais trouvé excellent. Le livre a échoué de très peu, hein. Il a perdu au tir au but, on va dire, pour l'obtention du prix Goncourt, qui, à mon avis, aurait été très mérité. Et si tu te souviens bien, le point de départ du livre, Le Mage du Kremlin, est un autre roman, un roman russe écrit en 1920 par Evgeny Zamyatin, intitulé Nous ou Nous autres, ça dépend des éditions. Et c'est le point de départ du Mage du Kremlin parce que c'est grâce à ce roman qui passionne le narrateur que ce narrateur va rentrer en contact avec Vadim Baranov, qui est l'homme de médias devenu surtout le spin doctor de Poutine, ce qui va donner après ce long monologue sur l'explication magnifique et cynique du pouvoir russe. Mais pour nous autres, c'est un roman capital en lui-même, et puis c'est un roman qui va très directement inspirer deux autres grands classiques de la littérature politique dystopique, Le meilleur des mondes, d'Huxley, et bien sûr 1984 d'Orwell. Tous les principaux ressorts d'ailleurs de ces deux grands livres se trouvent déjà chez Zamyatin. Alors, en quelques mots, c'est pour résumer l'enjeu de ce livre, dans une société future, mais pas forcément très lointaine, tous les hommes sont enfermés dans une société de verre, une société totalitaire, dans laquelle tous les comportements sont réglementés par un grand bienfaiteur, en vue de créer une société absolument sûre et heureuse. C'est une société de la transparence absolue, dans laquelle il n'y a pas de vie privée, et même les comportements sexuels sont régulés. Les habitations, d'ailleurs, n'ont pas de parois, et on indique à chacun combien il doit dormir, combien il doit mastiquer pour assurer une bonne digestion. Enfin, il n'y a pas à manger 5 légumes par jour, mais on n'en est pas loin. Et tout est naturellement surveillé, tout est carpuni de manière radicale, et dans cet univers, tous les hommes sont des numéros. Ça rappelle aussi cette formidable série qui était Le Prisonnier. Donc tous les hommes sont des numéros et le roman suit le destin de l'un d'eux, D503, qui est un brillant ingénieur, qui a comme maladie d'avoir une âme, avec tous les défauts qu'induit le fait d'avoir une âme dans ce monde totalitaire. Le premier défaut étant celui de pouvoir rêver. Alors bien sûr, je ne vais pas révéler toute l'intrigue, mais on peut voir ce livre comme une condamnation, une mise en alerte contre le totalitarisme naissant à l'époque, en Union soviétique. L'auteur, Zamiatin, était un bolchevique lui-même, qui était un opposant au tsarisme. Il avait participé à la révolution de 1917, mais il a tout de suite compris le film et a vu comment le socialisme ne pouvait que dégénérer en totalitarisme. Et c'est pourquoi son roman va être censuré et puis il va s'exiler. Mais au-delà de ce contexte, on va dire immédiat soviétique, je crois que ce livre résonne très largement avec notre époque. Et c'est, je finirai là-dessus, ce que résume formidablement bien le narrateur du mage du Kremlin, et donc là je vais citer Giuliano da Empoli, qui dit « Sans s'en rendre compte, Zamiatin avait enjambé un siècle pour s'adresser directement à notre ère. Il nous dépeignait une société gouvernée par la logique, où toute chose était convertie en chiffres, et où la vie de chaque individu était réglée dans les moindres détails pour garantir une efficacité maximale. Il me semblait que son œuvre concentrait toutes les questions de l'époque qui était la nôtre. Il ne nous décrivait pas l'Union soviétique, il racontait le monde lisse, sans aspérité des algorithmes, la matrice globale en construction, et face à celle-ci, l'irrémédiable insuffisance de nos cerveaux primitifs. Zamiatin était un oracle, il ne s'adressait pas seulement à Staline, il épinglait tous les dictateurs à venir, les oligarques de la Silicon Valley, comme les mandarins du parti unique chinois. C'est très bien résumé, donc, et pour toutes ces raisons, et puis pour toute la poésie diffuse, pas toujours compréhensible de premier abord de ce livre, je te conseille vraiment grandement ce « Nous autres ».
Pour conclure ce premier épisode de Rattrapage, un hommage à Milan Kundera à travers une chronique que tu lui avais consacrée en février dernier.
Tout à fait. Je voulais revenir sur un très beau documentaire qui est actuellement disponible sur Arte, qui est intitulé « Milan Kundera, Odyssée des illusions trahies » de Jarmila Buskova, qui est une réalisatrice franco-tchèque. Alors, Milan Kundera, c'est évidemment un des derniers grands géants de la littérature mondiale, contrairement à ce que pensent peut-être beaucoup de nos auditeurs français, d'origine tchèque, mais français, puisque dans les années 80, le président Mitterrand lui avait octroyé la nationalité. Alors, ce documentaire, disons-le tout de suite, c'est pas un documentaire qui revient sur l'art du roman chez Kundera, art du roman sur lequel il a beaucoup écrit, il y a consacré un essai, et c'est pas nécessairement un documentaire qui va nous donner les clés de la littérature de Kundera, mais c'est un documentaire qui suit la vie de Kundera, qui est une vie, comme tu l'as dit, il y a eu des hauts, des bas, et c'est une vie qui est faite parfois de renoncement, de trahison, d'illusions trahies. De manière intéressante, les Tchèques, parce que ce documentaire a été aussi diffusé en Tchécoslovaquie, ont choisi le terme des illusions perdues, ça faisait plus balsacien peut-être, et donc ce documentaire à cet égard est passionnant. Alors Kundera, c'est aussi, à travers sa vie, c'est l'histoire de la Tchécoslovaquie, de la Tchéquie que l'on voit. Parce que c'est quelqu'un qui naît en 1929 à Brno, donc cette petite ville dans un milieu très cultivé au cœur de la Tchécoslovaquie. Et puis ensuite, dans les années 50, il est jeune homme à une époque qui est absolument terrible en Tchécoslovaquie, parce que c'est après le coup d'État communiste de 48, c'est le moment des procès de Prague. Hein. Et durant cette période-là, et ben en fait, Kundera, c'est un auteur qui est très apprécié du régime, parce que sa poésie, c'est une poésie qui répond aux critères de la poésie socialiste, et il reçoit d'ailleurs le prix Clément Gottwald du nom du leader tchécoslovaque. Alors, il fallait quand même être apprécié du régime. Et puis, en fait, il va évoluer. Et dans les années 60, alors les années 60, qui sont des années que nous, on connaît peu en Tchécoslovaquie, mais qui sont des années, en fait, assez extraordinaires en termes de bouillonnement et de foisonnement culturel, parce qu'il y a une forme de libération intérieure en Tchécoslovaquie. Le pays reste communiste, mais on va dire qu'il y a une forme de... C'est ce qu'on appelle le printemps de Prague. Et donc, d'un seul coup, une vague de liberté souffle sur le pays, sur le plan artistique, de la littérature, sur le plan des mœurs, etc. C'est une période assez extraordinaire. Et le roman qui incarne cela, c'est La Plaisanterie, en 1967, qui fait de Kundera un auteur culte dans son pays. Et puis, évidemment, déjà à l'époque, les chars russes entrent en 68 dans Prague, et là, c'est la répression, et finalement, une chape de plomb va à nouveau s'abattre sur le pays, qui amènera Kundera à l'exil en 75. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand il va arriver en France en 75, ensuite, il va... petit à petit rejeter son pays et dresser des barrières avec son pays. Et il va commencer d'ailleurs à écrire en français, et puis il va avoir le sentiment d'être constamment trahi, d'où le titre, trahi sur la manière dont ses livres seront traduits, trahi sur l'adaptation par exemple de L'insoutenable légèreté de l'être au cinéma, et trahi d'après lui par les médias qui ne le comprendront pas. Et tragédie absolue pour Kundera quand en 89 finalement le bloc s'effondre, la chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin, en fait, pour lui, c'est trop tard, quelque part. La Tchécoslovaquie qu'il a connue a disparu et donc il ne veut plus y retourner. Et il y a cette très belle phrase d'un jeune auteur, aujourd'hui tchèque, Jan Němeč, qui dit « Kundera est le père absent », parlant de la figure de Kundera pour la littérature tchèque aujourd'hui. « Kundera est le père absent », on lui pose des questions, il ne répond pas. Et donc, ça montre un peu le rapport de Kundera à la République tchèque aujourd'hui. Kundera, qui d'ailleurs, de manière intéressante, est un des rares auteurs à être rentré à la Pléiade de son vivant. Kundera, aujourd'hui 93 ans, en 2011, il était rentré à la Pléiade. Mais dans la Pléiade, il n'y a aucune œuvre de jeunesse. C'est-à-dire qu'il a fait retirer toutes les œuvres de son passé. Sa poésie, notamment réaliste, n'en fait pas partie. Juste, je profite de cette mention, donc de ce documentaire sur Kundera, pour aussi recommander un texte, moi, qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années. À l'époque, je voyageais beaucoup en Europe de l'Est et en Europe centrale. Je réfléchissais même à écrire quelque chose sur cette région. Et le texte qui était un peu la matrice de ça, c'est un texte qui a été republié il y a quelques années par Gallimard, qui avait été publié en 1983 dans Le Débat, et qui était cet article de Kundera intitulé « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale ». C'est un petit texte, mais c'est un petit texte qui dit beaucoup sur à la fois la situation actuelle qu'on observe en Europe de l'Est, y compris en Ukraine, mais aussi sur ce qu'est devenu la situation en Europe centrale et notamment le fossé de plus en plus grand entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et en fait, qu'est-ce que disait Kundera dans cet article que je recommande vivement ? C'est en fait, il disait que l'Europe centrale est composée de petits États, ce qu'il appelait des petites nations, dont l'existence, par définition menacée, n'a rien d'une évidence, et qu'en fait, pour vivre, pour exister, il leur faut contribuer par la culture à la culture européenne. Et donc, cet article revient d'abord sur l'identité profondément européenne de ces pays. Et notamment, il explique cette anecdote qui est bouleversante. Il dit que lorsque, en 56, les chars soviétiques étaient rentrés dans Budapest pour réprimer, à l'époque, le directeur de l'agence de presse de la Hongrie avait dit « Nous mourrons pour la Hongrie et l'Europe ». À l'époque, les deux étaient liés. Quand on passe à Orban aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on voit que ça s'est complètement inversé. Mais surtout, Kundera reprochait dans ce texte à l'Europe de l'Ouest d'avoir finalement, à ce moment-là, abandonné pendant des décennies ces pays d'Europe centrale et de les avoir coupés de l'Europe et de les avoir laissés face à face avec l'ogre soviétique. Et aujourd'hui, évidemment, ce texte, quand on le relit à la lumière à la fois de la guerre en Ukraine, mais aussi de la montée de nationalisme étriqué et fermé sur eux-mêmes dans des pays comme la Pologne ou des pays d'Europe centrale, résonne beaucoup. Donc, c'est un texte magnifique et c'est un documentaire absolument magnifique.
Merci Jérémy. Fin de ce premier épisode de Rattrapage. À la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur. Bon été !